matinale avec vous Marion Lou. Bonjour.
Bonjour Camille, bonjour à tous. Bienvenue dans 13-14, une heure d'info à la mi-journée, à la une aujourd'hui. Notre été sera-t-il gâché ou déconfiné? C'est la question qui se pose avant l'intervention ce soir du président de la République. Face au variant Delta qui progresse, Emmanuel Macron doit annoncer de nouvelles mesures. Passe sanitaire élargie, vaccin obligatoire et si oui, pour qui? On fera le point sur les pistes envisagées. Des précisions attendues aussi sur la relance et les réformes. On reviendra aussi sur l'image de cette mi-journée, ces footballeurs italiens de retour triomphants à l'aéroport de Rome après leur victoire à l'Euro. Le gardien, surtout Gianluigi Donnarumma, accueilli en héros, alors que l'Angleterre vaincue se débat avec des supporters racistes envers son équipe nationale. Dans ce journal encore, le projet de taxe numérique suspendu à Bruxelles sous pression américaine. Manifestation spontanée contre le régime cubain. Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS et spécialiste de l'Amérique latine, sera notre invité. Autre invité à partir de 13h30 sur Inter, on la surnomme parfois la toubib des migrants. Karine Roland, nouvelle présidente de Médecins du Monde. On lui parlera Covid, vaccination, crise du système de santé et migration. Vos questions 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. Plongé pour retrouver l'arme du crime ou un cadavre, sauvé à bord d'un bateau, quelqu'un qui s'est mis à l'eau, c'est la mission des policiers de la brigade fluviale. Notre feuilleton nous fait passer une semaine à leur côté. Premier épisode aujourd'hui.
Il faut savoir qu'à Paris, la baignade est strictement interdite parce qu'elle est dangereuse. Malheureusement, chaque année, on a des jeunes qui décèdent. Mais toutes les semaines, que ce soit sur Paris ou dans le Val-de-Marne, on a des jeunes qui se mettent à l'eau pour s'amuser, pour nager.
La suite à 2h moins le quart et puis de l'éclectisme sur France Inter. On écoutera du Gilbert Bécaud dans C'est une chanson et du Désirless, mais oui, dans notre chronique canoise. Le 13-14, vous avez le menu, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Une fois n'est pas coutume, commençons ce journal avec quelques chiffres. Moins de 1000 personnes sont hospitalisées pour Covid en ce moment, mais le nombre de contaminations au coronavirus a presque doublé chez nous la semaine dernière. Et le variant Delta du virus, désormais dominant en France, est plus contagieux à 60%. Bref, nous sommes au pied de la quatrième vague de l'épidémie et notre été libéré, délivré, pourrait bien ne pas durer. Exemple, en Corse, une cinquantaine de personnes testées positives à la Covid en Balagne, un foyer épidémique d'une ampleur inédite sur l'île de Beauté. Christophe Giudicelli.
Du jamais vu, mais il faut le rappeler, il y a une semaine, les restrictions étaient levées depuis le 30 juin. Les événements de moins de 1000 personnes n'étaient et ne sont toujours pas soumis à des mesures de type pass sanitaire et seules les discothèques rouvertes il y a 3 jours à peine le nécessitent. Marie-Hélène Le Seine, la directrice de l'Agence nationale de la santé, évoque l'origine de ces contaminations.
Plusieurs regroupements plutôt festifs qui sont à l'origine de cette contamination effectivement de plus de 50 personnes. 3 événements, c'est ce que le contact tracing nous met en évidence, hein, puisqu'on a appelé une grande partie déjà des 50 personnes. Et donc c'est en recoupant les informations effectivement qu'on a pu identifier les circonstances qui ont généré les clusters.
50 personnes testées positives, mais les autorités s'attendent à une augmentation du nombre de cas, explique Mehdi Jamel, directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse.
On sait qu'il y a probablement plusieurs centaines de personnes qui ont participé à ces divers événements festifs. Donc les autorités sanitaires s'attendent à une augmentation importante des cas dans les jours à venir.
Une chaîne de transmission active, selon la directrice de l'ARS.
Ça veut dire contamination d'autres jeunes, contamination de l'environnement familial et éventuelle contamination d'une personne vulnérable qui, elle, pourrait développer des formes graves.
Les autorités appellent à se faire tester et vacciner pour stopper la chaîne de transmission.
Christophe Giudicelli, France Bleu Frequenza Mora. C'est dans ce contexte que le président de la République va donc s'exprimer ce soir à la télévision. Intervention à suivre dès 20h sur France Inter. Emmanuel Macron espérait pouvoir esquisser les réformes à venir pour la suite de son mandat. Ça sera finalement un discours plus sanitaire que prévu. Bonjour Yael Gauze.
Bonjour Marion.
Chef du service politique de France Inter. Un conseil de défense est en cours à l'Élysée autour du chef de l'État. Quelles mesures sont sur la table et pourraient être officialisées ce soir?
Alors ce sera d'abord le retour du président épidémiologiste, figure qui semblait appartenir au passé, effacé par le président pèlerin au contact des Français. Mais le court terme rattrape le long terme. Le vaccin comme antidote au confinement, ce slogan a été expérimenté par Olivier Véran la semaine dernière. Obligatoire au moins pour les soignants, le projet de loi plutôt consensuel est presque prêt. Obligatoire pour tous, piste écartée pour l'instant. La pédagogie plutôt que le bâton, le président tient à son image de défenseur des libertés. Ensuite les frontières, faudra-t-il resserrer la vis dans les aéroports? Ce qui rejoint l'autre sujet brûlant, le pass sanitaire, plus restrictif. Sport, culture, événementiel, diminution des jauges, comme le recommande le conseil scientifique. Faire payer les tests PCR dits de confort. Mais alors, comment tracer? Enfin, c'est encore loin. Le 30 septembre expirera le projet de loi de sortie d'état d'urgence sanitaire. Comment préparer la rentrée et donner les outils à l'État, aux collectivités, s'il faut lutter contre une nouvelle vague? Tout ça se prépare maintenant.
Or, variant Delta, Yael, la politique est toujours là. Hein.
Oui, se laisser dicter son tempo par l'horloge sanitaire, ce n'est pas du tout le genre de la maison, résume un proche d'Emmanuel Macron. Le président l'a clairement montré lors des déconfinements. La crise est derrière nous, ce slogan du printemps, c'est vrai, ne tient plus. Mais en matière de réforme, il n'y a pas que les retraites, sans doute renvoyées à un chantier post-présidentiel plus ambitieux. Quid de l'extension de la garantie jeune? Le temps est-il venu d'arbitrer sur le projet de loi dépendance? Un état-providence intergénérationnel? Cette piste est explorée depuis plusieurs semaines. La réforme du statut des indépendants également, et puis tout faire pour réussir la relance, se montrer réformateur toujours, sans brusquer un pays encore convalescent, sans nier non plus que le « combien ça coûte » finira par supplanter le « quoi qu'il en coûte ». Nouvelle synthèse, nouvelle et en même temps à inventer ce soir à 20h.
Et parmi les annonces probables du chef de l'État contre le variant Delta, donc l'extension du pass sanitaire qui prouve qu'on est vacciné ou qu'on dispose d'un test négatif récent, il pourrait concerner aussi les restaurants, les salles de sport, les événements de moins de 1000 personnes. La perspective inquiète les organisateurs des festivals estivaux de théâtre et de musique, pas forcément en mesure de s'adapter rapidement, prévient Nicolas Dubourg, président du syndicat des entreprises artistiques et culturelles.
Certains spectateurs ont pu faire l'expérience, par exemple à Avignon, d'une entrée dans la cour d'honneur avec ce pass sanitaire. C'est une expérience qui prend beaucoup de temps, qui surtout mobilise une quantité de personnel très importante. Donc ça veut dire que pour des salles qui sont plus modestes, notamment dans le off, et je pense aussi à des lieux qui accueillent tout au long de l'été du spectacle vivant et qui ne sont pas spécialement formés pour cela. Je pense aux centres de vacances, les centres de loisirs, etc. Et donc là, ça veut dire une ingénierie qui est tout simplement hors de portée. Tout le secteur s'était préparé pour que cet été, notamment en direction de la jeunesse, on puisse proposer des choses. À partir du moment où on utilise cette technique-là, évidemment, on ferme les portes immédiatement. Encore une fois, le secteur du spectacle vivant n'est en rien opposé à la question de la vaccination. C'est pas du tout ça le sujet. Et là, c'est toujours pareil, c'est des sentiments d'urgence et que face à l'urgence, le premier secteur qui paye, c'est le secteur culturel. Et donc, on a une très grande crainte par rapport à ça.
Nicolas Dubourg, le président du Syndéac, au micro France Inter de Stéphane Capron. Passe obligatoire, en tout cas, pour le défilé du 14 juillet. Si vous souhaitez y assister à Paris, mercredi, il faudra être muni du sésame et porter un masque, prévient la préfecture de police. Contre le variant Delta et son extension, autre mesure très probablement au menu de l'intervention présidentielle, donc le vaccin anti-Covid obligatoire pour certaines professions, les soignants notamment. Ce matin, le numéro 1 de la CGT répète son opposition. Pour Philippe Martinez, cela risque de culpabiliser les personnels de santé. François Bayrou, chef du Modem et allié d'Emmanuel Macron, lui, estime qu'il faudrait imposer le vaccin à tous les plus de 12 ans. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, l'écarte pour l'instant. La contrainte est pourtant imposée ailleurs dans le monde. Aux États-Unis, par exemple, des géants financiers comme BlackRock ou Morgan Stanley imposent l'injection à leurs salariés. Reportage Loïc Loury.
Une quarantaine d'étages et un va-et-vient incessant en temps normal d'employés, de sous-traitants, de clients et de simples visiteurs. L'emblématique Morgan Stanley Building au sud de Central Park est désormais au moins en principe interdit d'accès aux non-vaccinés. En principe, car le système pour l'instant repose sur la confiance. Les visiteurs devront attester sur l'honneur avoir été vaccinés. Un justificatif pourrait leur être demandé. Les employés, eux, avaient jusqu'au 1er juillet pour dire si oui ou non ils étaient vaccinés, mais sans avoir à présenter la moindre preuve. A priori, pas de polémique en vue. Le patron de la banque affirmait il y a 3 semaines que 90% des employés attendus aujourd'hui au bureau étaient déjà vaccinés. Le système n'en est pas moins le plus strict à Wall Street, où certaines compagnies pourraient s'en inspirer. De quoi permettre en intérieur l'abandon du masque et de la distanciation physique. Les non-vaccinés seront eux priés de rester en télétravail. New York, Loïc Loury, France Inter.
Et pour inciter à la vaccination en France, l'Académie de médecine notamment préconiser de rendre payants les tests PCR de convenance. Ce qu'on fait pour aller retrouver des proches ou pour partir en voyage. Mauvaise idée pour Yazdan Pana, chef du service infectiologie à l'hôpital Bichat à Paris.
J'ai peur que cette intervention, en le rendant payant, empêche un certain nombre de gens d'aller pour faire des tests et le test reste un outil très important pour lutter contre l'épidémie.
Okay. ça détournerait les gens des tests et en fait le virus pourrait circuler encore plus vite.
C'est-à-dire que c'est quand même un outil rendre. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'abus. Il faut pas que les gens fassent n'importe quand, n'importe où des tests. Il faut le faire quand on a besoin. Mais en même temps, le test reste un outil important.
Yazdan Pana sur France Info ce matin. Face à de nouvelles restrictions et contraintes possibles, le patron de la Confédération des PME le disait ce matin sur France Inter. Notre plus grande angoisse, c'est que l'économie s'arrête, qu'on se remette à fermer restaurants et magasins. Il espère, lui, des perspectives pour la relance économique. D'autres attendent des précisions sur les contours de la future garantie jeune universelle sur laquelle le gouvernement planche depuis des mois. Elle pourrait concerner 1 million de jeunes de moins de 26 ans, 10 fois plus qu'aujourd'hui. Mathieu Klein, le maire socialiste de Nancy, en est un fervent défenseur.
La France est un des rares pays de l'Union européenne à ne pas disposer de minimum jeunesse. La France est un des pays de l'OCDE dans lequel le taux de pauvreté des jeunes de moins de 25 ans est parmi les plus élevés. Donc il y a urgence à agir. Il faut agir en lien avec les territoires, avec les départements, les villes et les métropoles qui d'ailleurs depuis des mois, parfois des années, tendent la main, proposent des expérimentations. Si ce soir le président de la République annonce l'élargissement, voire l'universalisation de la garantie jeune, ce sera à la fois nécessaire mais insuffisant car la garantie jeune ne répond pas à l'ensemble de la préoccupation qui est celle des jeunes aujourd'hui. Elle s'adresse seulement à une partie des jeunes. Nous devons avoir plusieurs outils à notre disposition. L'accompagnement social, l'insertion sociale et professionnelle, le coup de pouce financier, parfois le revenu jeune pour les jeunes en situation les plus en précarité. Il faut donc une ambition beaucoup plus forte.
Le maire socialiste de Nancy, joint par Yael Gauze pour France Inter. Et au chapitre éco, un autre dossier sur le bureau du président, celui de la filière automobile française. Inquiète de voir les véhicules thermiques interdits à la vente plus tôt que prévu. La Commission européenne doit l'annoncer cette semaine. Emmanuel Macron recevait ce matin les acteurs du secteur. Il réclame de l'argent pour se convertir à l'électrique ou l'hydrogène et éviter la casse. 100 000 emplois seraient menacés. L'impôt mondial minimal sur les sociétés censé limiter l'évasion fiscale est en marche. La taxe sur les GAFA, les grands groupes du numérique, elle, semble avoir du plomb dans l'aile. Cette taxe numérique, en projet à Bruxelles, est gelée, annonce ce matin le porte-parole de la Commission. Bonjour Jérémy Audouard.
Bonjour.
Notre correspondant à Bruxelles. Les États-Unis critiquaient ce projet. Comment en arrive-t-on à le mettre sur pause ?
Alors oui, le projet est gelé pour l'instant. La Commission européenne a expliqué la raison pour laquelle cette idée de taxe numérique était sur pause pour l'instant. Alors vous le savez, ce week-end, le G20 a signé un accord pour assurer une taxe de 15% sur les multinationales. Et cette mesure inédite que la Commission qualifie d'exceptionnelle, eh bien les Européens y tiennent beaucoup. Mais les Américains, eux, via la voix de la secrétaire au Trésor Janet Yellen, considèrent que ce serait en quelque sorte une double peine. Amazon, Facebook, Apple devrait payer pour les taxes sur les multinationales et pour la taxe européenne sur le numérique. En guise de levier de négociation, les États-Unis pourraient donc faire capoter cette taxe sur les multinationales. Côté européen, les ministres des Finances veulent donc rassurer leurs partenaires américains en gelant le projet. Mais ce n'est que partie remise, cette taxe sur le numérique sera rediscutée à partir du mois d'octobre, le temps que les pays de l'OCDE continue de négocier cette fameuse taxe sur les multinationales.
Jérémy Audouard en direct de Bruxelles pour France Inter, merci. Au chapitre fiscal encore, la mise en place de cet impôt en lieu et place de l'ISF avait fait polémique il y a 3 ans. Eh bien, l'impôt sur la fortune immobilière a rapporté plus que prévu cette année. Ça, c'est ce que dit le ministre délégué en charge des comptes publics. Plus que prévu, plus d'1,5 milliard d'euros, mais moins que feu l'impôt sur la fortune et ses 4 milliards. Laurent Kramer, le ministre, en dit plus aussi sur les profils des contribuables qui payent ce nouvel impôt.
Cet impôt sur la fortune immobilière ne touche pas de loin que les très grandes fortunes françaises. Sur les 143 000 foyers concernés, plus de 100 000, les trois quarts d'entre eux, ont un patrimoine immobilier inférieur à 2 millions d'euros, essentiellement des personnes âgées. En Aquitaine, Lyon, Annecy, la région PACA ou encore l'Ouest parisien, plus surprenant, parmi ces foyers imposés sur la fortune immobilière, un quart d'entre eux déclare moins de 60 000 euros de revenus nets imposables. Cette note de Bercy révèle également que la résidence principale ne constitue pas l'essentiel de l'imposition sur la fortune immobilière. Avec sa décote, la résidence principale ne représente en réalité que moins d'un tiers de cet impôt sur la fortune immobilière. En moyenne, les premiers foyers imposés sur l'immobilier s'acquittent pour une moitié d'entre eux de moins de 4000 euros par an.
Laurent Kramer du service économie de France Inter. Nos messages et nos données sur l'application WhatsApp sont-elles vraiment bien protégées? Des associations de consommateurs de plusieurs pays portent plainte aujourd'hui contre l'application qui appartient à Facebook. Les nouvelles règles de confidentialité permettraient à la messagerie de partager certaines données avec le réseau social Facebook et d'autres filiales du groupe. Une violation de la directive européenne sur les pratiques commerciales déloyales, estiment les associations. Non, football isn't coming home. Le football ne rentre pas à la maison, comme le disaient les supporters britanniques. Football is coming to Rome. Le football vient à Rome. Sourire, coupe brandie et tête couronnée à la descente d'avion. Grande fête attendue ce soir en Italie après la victoire de la nationale et en finale de l'Euro 2020 hier. Score final, un partout dans le stade londonien de Wembley, mais 3-2 pour les Italiens face aux Anglais. Et pour assombrir encore l'humeur de ces Britanniques privés d'un titre dont ils rêvaient depuis 55 ans, des insultes racistes défraient la chronique. Propos publiés sur les réseaux sociaux hier soir et visant Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka. La fédération anglaise se dit consternée et dégoûtée. Le Premier ministre Boris Johnson dénonce des abus effroyables. Quid des supporters anglais? Reportage outre-Manche, Valentin Dunat.
Pour Boris Johnson, cette équipe d'Angleterre mérite d'être traitée en héros et non en victime d'insultes racistes. Les responsables devraient avoir honte d'eux-mêmes. Voilà ce que dit le Premier ministre. De son côté, la Fédération anglaise de football se dit consternée, dégoûtée par ces insultes sur Internet qui ont aussi été entendues autour du stade. Monica habite le quartier de Wembley.
Oui, en effet. On était autour du stade et j'ai entendu pas mal d'insultes racistes de ce type. Il y avait beaucoup de violence, beaucoup d'objets balancés un peu partout. J'avais de l'alcool sur moi, mon fils aussi. Ça n'était pas vraiment sain comme ambiance, alors on est rentré à la maison.
La police de Londres annonce aujourd'hui qu'elle est en train d'enquêter sur ces publications racistes qui, à vrai dire, existent depuis plusieurs mois en Angleterre. En mai dernier, tous les clubs de Première Ligue avaient boycotté les réseaux sociaux pour protester contre le harcèlement en ligne.
Et même si la France s'est arrêtée trop tôt dans cet Euro, nous avons aussi gagné quelque chose hier soir. Un brillant gardien de but, en l'espèce le gardien italien Gianluigi Donnarumma, 22 ans, héros de la rencontre d'hier soir. Il devrait signer avec le Paris Saint-Germain à la rentrée. Cédric Guillou, Donnarumma, tout simplement meilleur joueur de l'Euro.
Gianluigi Donnarumma a réussi l'exploit de climatiser tout un stade incandescent en l'espace de quelques secondes. En repoussant le cinquième pénalty anglais, le gardien italien a glacé les supporters de l'Angleterre à Wembley et il a fait chavirer ses coéquipiers qui, comme c'est de tradition, se sont tous précipités sur lui à l'issue de cette séance de tirs au but victorieuse. Donnarumma, seulement 22 ans, déjà 33 sélections avec la squadra azzurra, s'était déjà montré décisif en demi-finale face à l'Espagne. En repoussant le pénalty de Morata, il a été le premier à monter sur l'estrade au centre de la pelouse de Wembley hier soir, récompensé du titre de meilleur joueur de cet Euro. Même si son transfert n'a pas encore été officialisé, Gianluigi Donnarumma devrait porter les couleurs du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Avec lui et Keylor Navas, qui est aussi l'un des meilleurs gardiens du monde, le club parisien apparaît parfaitement armé à ce poste pour aborder la prochaine saison.
La journée s'annonce très chaude aux États-Unis. Record de température attendu, plus de 47 degrés à Las Vegas. Plus de 52 degrés dans la vallée de la mort en Californie. Plusieurs régions de l'Ouest subissent une deuxième vague de chaleur en quelques semaines. Il fait beaucoup moins chaud chez nous. La météo à suivre à la fin de ce journal. Et non loin des États-Unis, manifestation inédite et donc historique contre le régime communiste à Cuba. Des mouvements spontanés ont éclaté dans plusieurs villes du pays hier, dont la capitale, La Havane. Pour en parler avec nous, Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS et spécialiste de l'Amérique latine. Bonjour.
Bonjour.
Pourquoi ces manifestations maintenant ?
Bah écoutez, ces manifestations maintenant, parce qu'en fait, ça faisait un certain temps qu'on voyait qu'elles pouvaient arriver à Cuba, comme elles arrivent d'ailleurs dans d'autres pays de la région latino-américaine. Ce sont d'abord des mobilisations contre la détérioration de la vie quotidienne, contre la détérioration économique et sociale dans ce pays, qui est liée à la fois à des facteurs conjoncturels cubains, mais aussi structurels avec la crise économique et sociale qu'a exacerbé la pandémie de Covid-19, le développement de cette même pandémie désormais à Cuba depuis quelques semaines, quelques mois. Et donc c'est tout ça en fait qui fait que la première raison finalement de ce mouvement social à Cuba est liée à cette question économique et sociale, les problèmes d'approvisionnement, d'alimentation, de coupure d'électricité, etc., qui se déroulent dans le pays et qui aujourd'hui font gronder l'insatisfaction dans la population. C'est d'abord ça qui est la cause, la source de ce que nous voyons aujourd'hui dans le pays.
Et c'est facilité par les réseaux sociaux. On a vu que la 3G avait été coupée plusieurs heures dans la journée d'hier. Il y a un rôle prépondérant d'Internet ?
Bah là aussi, j'ai envie de dire un petit peu comme on a vu à l'instar de la Colombie. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, beaucoup de médias suivaient les mouvements sociaux et la contestation en Colombie ou en Équateur ou avant ça au Chili, etc. Effectivement, dans cette dynamique un petit peu qu'on voit de contestation sociale dans le monde entier, le rôle des réseaux sociaux en particulier et d'Internet en général devient assez central comme caisse de résonance et aussi espace d'organisation des mobilisations et des manifestations qui se déroule un peu partout. Alors à Cuba, l'internet est assez développé. Beaucoup de gens énormément de gens sont connectés aux réseaux sociaux sur place. Et donc c'est effectivement là que les appels se sont déployés, multipliés pour avoir ces mobilisations qui, et c'est ça qui est nouveau à Cuba, se déroule dans tout le pays en fait, et pas simplement à La Havane.
Le gouvernement cubain dit ce matin qu'il veut défendre la révolution coûte que coûte. Il y a eu aussi des défilés pro-régime qui ont eu lieu. Est-ce que ça peut suffire, cette reprise en main, à mettre fin à cette colère sociale ?
Non, ça ne suffira pas. L'argument d'autorité ne suffira pas en l'espèce, parce qu'encore une fois, je crois que ce qui se passe à Cuba répond à des dimensions proprement nationales, mais à des dynamiques qu'on voit bien ailleurs en Amérique latine et ailleurs encore. Donc l'argument d'autorité ne pourra pas suffire. Alors il est clair maintenant qu'à Cuba, la configuration est assez spéciale, vu l'histoire du pays, et que dans ces mobilisations qui partent d'une exigence, d'une amélioration du quotidien, se jouent des batailles politiques, des guerres d'influence entre plusieurs acteurs qui sont à la fois dans le gouvernement, dans le parti communiste cubain, mais aussi dans la diaspora cubaine exilée à Miami, etc. Mmh. Tout ça est vrai en même temps. Donc ça peut rendre, si vous voulez, les choses assez inflammables dans les semaines qui viennent. Et tout ça, peut-être, je dirais, aux grandes dames de Washington, parce que ce n'est pas l'intérêt de Washington aujourd'hui, par exemple, d'avoir l'effondrement d'un système qui produirait, par exemple, des vagues de migrants vers les États-Unis. Ce ne serait pas son intérêt aujourd'hui. Donc ce qui pousse à une certaine prudence aussi de la part de Washington dans cette situation cubaine.
Justement, très rapidement, Christophe Ventura, Washington qui met en garde le régime cubain contre l'usage de la violence à l'encontre des manifestants, la Russie qui met en garde, elle, contre toute ingérence étrangère, ça peut dégénérer en tension mondiale ?
Non, tension mondiale, je n'irai pas jusque-là, je pense pas. Mais ce qui peut se passer, c'est avoir un pouvoir aujourd'hui à Cuba qui ne peut pas répondre en fait à la demande sociale de la population, qui n'a pas les moyens de le faire pour des raisons diverses et variées, liées à l'histoire de l'embargo, liées à la pandémie de Covid-19, liées à l'incapacité du pays de d'importer ce qu'il a besoin parce qu'il n'y a plus de tourisme à Cuba et puis il n'y a pas d'argent qui est envoyé par les diasporas dans le pays. Ça peut être ça, et du coup de voir un mouvement qui grossit sans que ces demandes soient solutionnées et donc renforcer finalement cette dynamique de crise politique et sociale.
Merci.
Mais qui, encore une fois, pour les pays environnants, peut être un facteur de déstabilisation dont ils n'ont pas besoin, à commencer par les États-Unis.
Merci Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS et spécialiste de l'Amérique latine. Merci de nous avoir répondu sur France Inter. La politique en France, c'est le casting de la primaire écologiste en vue de la présidentielle. 4 candidats pour un fauteuil, la députée Delphine Batho, l'eurodéputé Yannick Jadot, le maire de Grenoble Éric Piolle et l'ancienne numéro 2 d'Europe Écologie Les Verts Sandrine Rousseau. Les militants trancheront en septembre prochain. Elle n'est pas officiellement candidate à la présidentielle, mais elle poursuit une tournée nationale alors qu'elle n'est à ce stade qu'une élue locale. La maire de Paris, Anne Hidalgo, est à Villeurbanne aujourd'hui. La socialiste accompagnée entre autres du patron du PS, Olivier Faure, doit rencontrer plusieurs élus de gauche. Lui était professeur de médecine à Lyon et surtout un pionnier des greffes. Le professeur Jean-Michel Dubernard est mort ce week-end. Il avait réalisé en 1998 la première greffe de la main au monde. C'est grâce à lui que notre pays est à l'avant-garde en matière de greffe. Hommage de Lionel Badet, successeur de Jean-Michel Dubernard à l'hôpital Herriot de Londres. Info utile, les collègues de Monsieur Dubernard l'appelaient Max.
Max était pour un certain nombre de personnes encore présentes dans l'équipe, un véritable pionnier, un maître et puis un mentor, parce qu'on est passé, j'allais dire, de greffe qui sauvait la vie et qui améliorait la qualité de vie à une nouvelle dimension, à une nouvelle ère, qui était des greffes qui prenaient en charge des handicaps majeurs chez des patients qui étaient, nous, ce qu'on appelait à l'époque, en déshérence sociale, en mort sociale, et qu'on essayait de réintégrer dans leur famille et dans leur milieu professionnel éventuellement. Alors, on est sollicité parce qu'on est un centre d'exception en transplantation, j'allais dire, et que effectivement on a ouvert des voies, dont la dernière au mois de janvier dernier avec la transplantation de Félix Retterson, qui était une transplantation quasiment des deux épaules. Bien sûr, il y a d'autres projets, il y a d'autres patients qui sont sur des listes d'attente, et puis d'autres choses qui sont dans le pipeline et dont on verra les fruits dans quelques mois, je pense. Oui.
Lionel Badet de l'hôpital Herriot à Lyon avec Cécilia Arbona pour Inter. Il était la vedette du Canal Football Club, il n'en fait désormais plus partie. Pierre Ménès, grande gueule, mis en cause dans des affaires d'agression sexuelle, était déjà mis à pied. Il ne reviendra pas sur la chaîne cryptée, un accord financier a été trouvé. Allez, on a beaucoup parlé de Covid dans cette édition avec l'intervention du président de la République et ses annonces à 20h. Mais dans ce contexte, une touche de gaieté. Pour certains, la vie reprend déjà presque comme avant. Exemple, à la boîte de nuit Le Vegas de Sainte en Charente-Maritime. Elle a pu rouvrir ce week-end comme les autres discothèques, mais de façon particulière, le dimanche après-midi avec formule repas et thé dansant, parce que pour les personnes âgées presque toutes vaccinées, le pass sanitaire est plus facile à appliquer. Sur la piste, parmi les quelques centaines de danseurs hier, Lise Dussault.
Sous des boules à facettes, avec une lumière tamisée, Patrick, chemise blanche, pantalon de costume noir, sort de la piste de danse, légèrement essoufflé.
Je viens de faire mon petit tango, il y a longtemps qu'on n'a pas eu droit à faire ça, donc c'est un vrai plaisir de retrouver tout le monde, le sourire, la musique surtout que j'adore.
Presque toute l'assemblée s'est ruée sur le parquet dès les premières notes d'accordéon.
C'est un peu rouillé, mais ça va revenir.
C'est comme le vélo, hein, on perd pas de pied pour ça.
Claude et Pierre venaient ici toutes les semaines avant la crise sanitaire. Ils comptent bien rattraper le retard.
On va le vitrifier le parquet, tellement on va danser dessus, on va le vitrifier.
Danielle vit seule, elle sortait tous les samedis soirs avant la pandémie. Ça y est, la danseuse est de nouveau à l'affût.
Faut que je trouve un bon danseur, hein, parce que moi je suis difficile.
Tout ce petit monde revit sous les yeux du patron, Hugues Yvon. Ça lui fait d'ailleurs
des frissons. C'est un bon début et on est heureux de voir des gens heureux. Et voilà, ça restera un grand jour. J'irai pas jusqu'à dire que c'est le plus beau jour de leur vie, mais un des plus beaux jours.
Patricia a tellement attendu ce moment.
Très importante dans ma vie. Hein. C'est le soleil qui réapparaît.
Un soleil qui reviendra pour l'instant tous les dimanches après-midi.
Reportage France Bleu La Rochelle. À La Rochelle et ailleurs, la météo pourrie de ce lundi.
La météo. Avec Pavillon France, la marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Pluie et orage au programme.
Oui, un temps bien perturbé avec des averses quasiment partout. Alors elles sont plus fréquentes sur le nord-est en ce moment. Entre l'Auvergne, les Alpes et le Jura, elles vont pouvoir prendre un caractère orageux. Ce soir d'ailleurs, les pluies vont s'intensifier de la vallée du Rhône jusqu'aux Vosges. De la Normandie vers l'ouest de la région parisienne et le nord-Pas-de-Calais, là aussi de bonnes pluies, parfois un orage. Les averses sont quand même plus espacées de l'Orléanais vers le Poitou jusqu'à l'océan. Hein, c'est un petit peu moins pourri qu'ailleurs, avec un soleil qui se montre davantage. Et puis autour de la Méditerranée, du soleil à l'est du Rhône jusqu'au sud des Alpes. Pour les températures, 27 à 33 degrés près de la Méditerranée. Il fait frais sur une grande partie ouest, seulement 17 à 22 degrés. Et puis sur le flanc est, ça reste plus estival, 25 à 31 degrés, mais ça va baisser demain.
Élodie Calac, Météo France. Dans un instant sur Inter, Karine Roland, la nouvelle présidente de Médecins du Monde. Vos questions 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter.
Après 50 ans, on sait mieux ce qu'on veut.
Ah oui, surtout ce qu'on veut pas. On veut profiter de la vie, pas s'ennuyer.
Et avec ton profil 10 ans demain, j'ai su qu'on ne s'ennuierait pas.
Vous aussi, rencontrez des célibataires de plus de 50 ans qui partagent vos centres d'intérêt sur 10 ans demain.
Radio France présente le Concert de Paris.
L'Orchestre National de France, la Maîtrise et le Chœur de Radio France, dirigé par Simon Young, se retrouvent le 14 juillet dès 21h pour un concert à vivre en direct sur France Inter et France 2.
Avec Pretty Yende,
Renaud Capuçon,
Clémentine Marguen,
Piotr Béchala,
Edwin Crossley-Mercer,
Alexandre Kantorov,
Raphaël Moreau,
Xenia Sidorova,
Ibrahim Malouf.
Avec le soutien de la Ville de Paris,
Affaires, Association Française d'Épargne et de Retraite,
Société Générale, partenaire de la musique partout en France,
et Botissané, votre partenaire bien-être au quotidien.
France Inter aime
la 53e quinzaine des réalisateurs actuellement à Cannes. La quinzaine des réalisateurs célèbre la richesse et la diversité de la création cinématographique contemporaine. 25 longs métrages et 10 courts métrages à découvrir sur la croisette et bientôt dans toutes les salles de cinéma. Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable du 7e art. La 53e quinzaine des réalisateurs jusqu'au 17 juillet à Cannes. Un événement France Inter.
Il est 13h30 sur France Inter.
France Inter. Le 13-14. Marion Loup.
Soigner, témoigner, accompagner le changement social. Voilà, en quelques mots, la mission que s'est fixée l'ONG Médecins du Monde, et ça fait plus de 40 ans. On retrouve ces militants auprès des sinistrés de séismes au Népal, d'un typhon aux Philippines, des sans-domicile fixe et des personnes migrantes en France. Médecins du Monde est présent dans 73 pays, et en France, l'association a une nouvelle présidente depuis quelques semaines. Elle s'appelle Karine Roland et elle est avec nous dans ce 13-14. On attend vos questions, 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. Bonjour Karine Roland.
Bonjour.
Si vous deviez fixer une priorité pour votre mandat, une priorité pour l'association, ça serait quoi aujourd'hui ?
De continuer à pouvoir faire, à pouvoir être présent sur nos terrains. En France, auprès des plus exclus, des plus précarisés, et à l'international aussi, sur les différents terrains. Le monde est actuellement très complexe. Il y a la pandémie, il y a la fermeture des frontières, il y a une logique très sécuritaire qui s'applique partout et qui entrave la circulation des personnes, l'accès aux droits des personnes et aux soins. Donc la priorité, c'est de continuer à pouvoir faire et à pouvoir être ce qu'on est, c'est-à-dire une association indépendante, politiquement, financièrement. On doit continuer à faire et on doit rester ce qu'on est.
Pouvoir continuer malgré les restrictions, donc. Vous parliez de la pandémie à l'instant, c'est quand même une des grandes questions de santé publique en ce moment. C'est cette épidémie de Covid. Le cofondateur de Médecins du Monde, Bernard Kouchner, dit que les réticents à la vaccination sont, sinon des déserteurs, je le cite, du moins des alliés du virus. Vous êtes d'accord avec votre père fondateur ?
Pas complètement. Désolée. On est à 40% maintenant de vaccination de doses en France. C'est le gouvernement qui était en charge de vacciner tout le monde, de permettre l'accès de tous à la vaccination. Moi, j'ai 51 ans et je suis médecin généraliste, donc j'ai fait partie des premiers vaccinés. J'ai mes deux doses depuis très longtemps. Par contre, une aide-soignante de 25 ans, pendant longtemps, elle n'avait pas accès au vaccin. Je n'aime pas ces formulations qui renvoient la faute aux personnes. Si on est actuellement à un taux de 40% de vaccination, entre 30 et 40, je crois qu'on est arrivé à 40 pour les deux doses, c'est parce qu'il y a eu des choix politiques, il y a eu toute une infrastructure qui s'est mise en place. On n'est pas à 60-70%, et ça, c'est pas de la faute des personnes. Donc je n'aime pas du tout, moi, toutes ces formulations qui renvoient à la responsabilité individuelle. La vaccination, c'est quelque chose de collectif. Alors, bien entendu, il faut que les gens se vaccinent. Vaccinez-vous, n'ayez pas peur du vaccin. Faites-le, ne réfléchissez plus, allez-y tous, c'est très important. C'est vraiment un message pour moi fort. Par contre, je n'aime pas ces formules qui rendent responsables les personnes alors que c'est de l'ordre des pouvoirs publics. Tout ça.
Il y a ceux qui ne peuvent pas, effectivement, qui ne sont pas responsables, il y a ceux qui ne veulent pas. Donc est-ce qu'il faut obliger ces personnes qui ne veulent pas, notamment les soignants, et ça vous concerne aussi, à se vacciner ?
pourquoi pas, enfin en tous les cas dans ce cas-là rendons-le obligatoire pour tout le monde. Les soignants ont été d'abord les personnes qui aussi tombaient malades. Enfin, il y a énormément de soignants, des infirmières de 30 ans qui se sont retrouvées en réanimation. Ils ont tenu le système de santé, ils ont tenu l'hôpital public. Ils étaient épuisés. Rappelez-vous quand même qu'on les applaudissait à tout rompre tous les soirs il y a encore un an. Maintenant, on les monte du doigt, on les stigmatise. Les soignants sont des héros, entre autres, il n'y a pas que, hein, c'est les femmes de ménage, toutes les personnes qui ont permis au pays de continuer à vivre, toutes les personnes du CARE ont été héroïques. Si on rend obligatoire pour les soignants, actuellement on manque vraiment de personnel dans les hôpitaux publics. On a vraiment un hôpital public exsangue. Qui a besoin d'être soutenu, on a besoin d'ouverture de lits, et alors parce qu'il y a eu des choix politiques aussi de fermeture des lits, on en est là. La Delta arrive et le mois d'août, tous les mois d'août, c'est très difficile à l'hôpital public. Il faut se rappeler de ce qui s'est passé au moment de la canicule il y a 15 ans, je crois maintenant, c'était il y a déjà très longtemps. C'est parce que c'était le mois d'août. La Delta, il va monter en flèche là jusqu'à mi-août. Et mi-août, donc, si on rend obligatoire la vaccination pour les soignants et qu'on leur dit, ben, si vous n'êtes pas vacciné, allez-vous-en. On manque de soignants. Donc, comment va-t-on faire? On va fermer encore plus de lits. Donc, c'est très réducteur de dire les choses comme ça. Moi, effectivement, là, si vous me posez la question, moi, en tant que personne, je serais pour que la vaccination devienne obligatoire pour tous en France. Mais tant qu'elle est accessible à tous.
Voilà,
et il y a des populations qui n'y ont pas accès.
Justement, sur la question de l'accessibilité, quelle est votre solution, vous, Karine Roland, et vous, à Médecins du Monde, pour rendre cette piqûre, cette injection plus accessible?
Nous, on s'occupe des populations exclues, populations à la rue. Et donc, c'est aussi des personnes migrantes, par exemple, qui sont demandeuses d'asile, qui devraient être hébergées, qui ne le sont pas. Il y a 50% actuellement des demandeurs d'asile qui sont non hébergés, donc qui sont à la rue ou dans des squats, dans des campements. Il y a des personnes qui vivent en bidonville. Et jusque-là, la logique a toujours été sécuritaire, toujours et toujours plus. Donc on les expulse. Ils n'ont pas la possibilité de faire des tests, de s'isoler quand ils sont malades. Quand on est à 20 dans une chambre d'un truc insalubre, on peut pas s'isoler quand on est malade. Donc les populations précaires et les populations migrantes précaires en particulier ont une prévalence plus forte pour le virus. Donc ils sont plus exposés.
Et sont moins vaccinés.
Donc il faudrait de l'aller vert, mais pour faire de l'aller vert, il faut avoir une logique de santé publique et non pas une logique sécuritaire dictée par le ministère de l'Intérieur qui les expulse encore et toujours. À Grande-Synthe et Calais actuellement, les expulsions c'est toutes les 48 heures. Comment voulez-vous que des personnes comme ça puissent se vacciner, puissent s'isoler quand elles sont malades? On les exclut du droit commun. On les pourchasse. Donc quelque part, si on veut vraiment rendre cette vaccination obligatoire, pourquoi pas, moi je serais pour que tout le monde se fasse vacciner. Elle doit être obligatoire pour tous. Et il y a des efforts d'aller vers et de mise en place. Il faut pouvoir avoir des traducteurs pour convaincre les gens, pour leur expliquer comment, pourquoi. Et quand on harcèle les gens en permanence, parce qu'on les considère comme des indésirables alors qu'ils sont là, on sait très bien que cette population va avoir énormément de difficultés à se vacciner.
Il y a la question des brevets aussi, qui freinent la diffusion de ce vaccin.
Alors oui, ce qui est vrai sur le territoire français, c'est-à-dire que si on veut lutter contre la circulation du virus, il va bien falloir que l'ensemble des personnes présentes sur notre territoire soient vaccinées. C'est encore plus vrai à l'échelle de la population mondiale. Si on veut un jour se sortir de cette pandémie, il va bien falloir que tout le monde puisse se vacciner. Et il y a une inégalité d'accès au vaccin dans le monde qui est absolument inadmissible, avec des positionnements. Il y a eu Biden qui a eu un positionnement courageux récemment pour la levée de la propriété intellectuelle. Le positionnement de la France et de l'Union européenne n'est pas clair. Quelque part, là actuellement, moi je lisais par exemple en Afrique, ils sont à 2% de vaccination sur le continent africain. On ne s'en sortira pas. Tant qu'on ne fait pas des mesures fortes qui permettent à la levée des blocages liés à la propriété intellectuelle pour que les Indiens, l'Afrique du Sud puissent produire massivement des doses. Tant que l'entièreté de la population mondiale ne pourra pas se vacciner, on ne se sortira pas de cette pandémie. C'est un leurre de croire qu'on va s'en sortir en claquant des doigts et en fermant les yeux. C'est grave ce qui se passe, cette pandémie nous impacte à tous les niveaux. On devrait prendre des mesures exceptionnelles pour lutter contre ce phénomène exceptionnel.
Karine Roland, vous parliez tout à l'heure du nombre de places aussi à l'hôpital, qui est un réel problème face à cette pandémie. Vous avez co-déposé avec d'autres ONG un projet de référendum sur l'hôpital public au Conseil constitutionnel. L'objectif, c'est quoi? Alors, c'est plus de lits ou c'est plus global, plus général?
L'objectif, c'est qu'on change de politique, de toujours plus de fermetures. C'est des logiques libérales qui s'impliquent partout dans tous les pays d'Europe avec des règles d'austérité et une libéralisation d'à peu près tous les secteurs. Donc c'est le secteur de l'éducation, de la santé. Et nous, ce qu'on dit depuis toujours, c'est que la santé est un bien commun essentiel et ça concerne tout le monde. C'est-à-dire que chaque usager du système public de santé devrait pouvoir se mobiliser parce que c'est notre sécu qui est en danger là. C'est l'hôpital public qui est en danger réellement. Et c'était déjà vrai avant Covid. Il y a eu énormément de manifestations de soignants à l'époque. Et Covid n'a fait qu'amplifier. Donc on doit mettre les moyens nécessaires à avoir un système public de santé capable de fonctionner. Et pour l'instant, on en est très très loin.
Alors, il y a un effet quand même positif, si j'ose dire, de la Covid. C'est que les Français ont donné plus aux ONG l'an dernier. Par exemple, vous avez eu, je crois, 13% de plus. Est-ce que d'après vous, ça va durer, ça peut durer? Et est-ce que vous avez peur que par ailleurs, l'État, par exemple, ou les entreprises réduisent leur part de financement?
La France est solidaire. Il y a les politiques publiques qui actuellement sont, à mon sens, régressive. Après, les Français sont solidaires, extrêmement solidaires depuis toujours. Quand on voit ce qui se passe dans n'importe quel territoire en France, justement pour l'accueil des migrants ou des mineurs non accompagnés à la rue, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se bougent, qui font des choses. Donc la France est solidaire. Donc nous, effectivement, en tant qu'ONG, on a besoin de dons. Même n'importe quel petit don est important pour nous, pour pouvoir continuer à faire justement nos actions sur les terrains. Donc là-dessus, les Français, eux, sont toujours, je trouve, porteurs du liberté, égalité, fraternité, très fortement. La France solidaire, elle existe, elle est partout.
Malgré le resserrage de ceinture qu'on nous annonce au niveau financier, au niveau de l'État, est-ce que vous êtes sûr que la part de l'État va rester la même ou pas dans votre financement?
Ah bon, on peut jamais être sûr de rien.
On
n'a pas de perspective. Et puis après nous, l'État, c'est pas l'État en soi. Hein, c'est qu'on a aussi des subventions des ARS, des agences régionales de santé. Dans nos différentes délégations, on est présent dans 15 délégations en France, dans la plupart des grandes villes de France. Moi, je ne peux pas du tout affirmer rien sur quel pourra être l'engagement des ARS pour l'accès à la santé des plus précaires en France dans les années à venir. Là-dessus, on n'en sait rien. Nous ne sommes pas un opérateur de l'État. Nous fonctionnons aussi, surtout, grâce à la générosité du public.
Alors, j'ai une question de Lucas sur l'application France Inter qui demande quelle est l'action de Médecins du Monde qui vous a le plus marqué, dont vous êtes la plus fière. Faut en choisir une, attention.
Quelque part, là, je pense à ce qu'on fait actuellement à la frontière italienne. Après, excusez-moi tous les autres, on fait tellement de choses incroyables et formidables un peu partout. Mais là, je pense à ceux qui, à Briançon, aux côtés de tous migrants, font des maraudes la nuit pour venir en aide à des personnes qui risquent leur vie dans la neige. Des gens épuisés, ça peut être des femmes enceintes, ça peut être des personnes âgées, des familles avec plein d'enfants. Et pareil, il y a une logique répressive et sécuritaire extrêmement forte actuellement qui s'applique à la frontière.
Avec un afflux plus important aussi, peut-être ?
L'afflux. Alors ça, c'est cette histoire d'afflux, c'est pas possible. Il n'y a pas d'afflux plus important, jamais.
Ça s'est un peu arrêté, ça a ralenti pendant le début de la pandémie, quand même.
Mais même avant, c'est-à-dire qu'on a parlé, il n'y a pas de crise migratoire hein, en Europe. L'Europe déjà prend une part tellement faible des mouvements de population dans le monde. Et il y a eu des arrivées très importantes en 2015 et 2016. On était à plus de 2 millions de personnes, à plus d'un million de personnes par année. Là, actuellement, les chiffres, c'est 100 000, c'était descendu à 50 000, 20 000. Il n'y a pas d'afflux massif du tout. Enfin, il n'y a pas du tout d'afflux plus important. Par contre, il y a des contraintes aux personnes, aux mouvements de population qui sont de plus en plus forts. Il y a une présence policière qui se renforce à la frontière franco-italienne. Et avec de plus en plus le non-respect des droits humains fondamentaux, toute personne, une fois qu'elle est présente sur le territoire français, devrait pouvoir accéder à l'asile. Tout mineur, une fois qu'il est sur le territoire français, devrait pouvoir demander protection auprès de l'aide sociale à l'enfance. Là, on les renvoie immédiatement, voire on les met dans des algéco pour les renvoyer le lendemain. Il se passe des choses graves à ce niveau-là.
Karine Roland, qu'on surnomme aussi parfois la Toubib des migrants, nouvelle présidente en France de l'association Médecins du Monde. Merci beaucoup d'être venue sur France Inter. Il est 13h45 sur Inter.
France Inter, le 13-14.
Et à suivre, juste avant 14h, la météo cannoise de notre chroniqueur cinéma. Bonjour Laurent Delmas.
Bonjour Marion, aujourd'hui sur La Croisette, Adèle Exarchopoulos se transforme en hôtesse de l'air. Le fantôme de Bergman vient tenter un film en français et Désirless fait un tabac dans les BO.
Et rendez-vous, je le disais, juste avant 14h, mais d'abord notre feuilleton Une semaine dans leur vie. Un feuilleton au fil de l'eau cette semaine, une semaine dans leur vie consacrée à ces policiers qui veillent à la sécurité sur la Seine et sur ces canaux. Il s'agit de la brigade fluviale de la préfecture de Paris. Ces locaux se trouvent les pieds dans l'eau, au cœur de la capitale. Visite avec ce reportage d'Ariane Grissel, avec les moyens techniques de Sandrine Malon.
Nous sommes tout près du pont d'Austerlitz, quai Saint-Bernard, dans le 5e arrondissement de Paris, pas très loin du Jardin des Plantes. Depuis le quai, sur la Seine, vous apercevez les préfabriqués de la brigade fluviale. C'est là que nous avons rendez-vous avec Sophie Malherbe, qui dirige cette brigade depuis quelques mois.
Bonjour. Alors Sophie Malherbe, j'ai 49 ans. Je suis commandant divisionnaire fonctionnel, chef de service de la brigade fluviale. La brigade fluviale, elle a été créée pour l'exposition universelle de 1900. Et en fait, on se rend compte que la brigade fluviale, elle fait beaucoup de choses extraordinaires. On est amené à travailler régulièrement avec la brigade criminelle. Donc, ils nous sollicitent pour trouver l'arme d'un crime. On est amené aussi à faire des constatations lorsqu'il y a des découvertes de cadavres. Donc, ce volet me tient vraiment à cœur parce que le public ne connaît pas, mais il est aussi important sur un procès aux assises de retrouver l'arme de crime pour les familles, que de sauver quelqu'un qui vient de se jeter d'un pont. On n'est pas que des plongeurs, les policiers se doivent aussi de faire respecter la réglementation fluviale. Donc on est amené à faire des patrouilles, à contrôler des bateaux en navigation, à contrôler des écluses, à contrôler des bateaux qui sont amarrés dans des ports. On est amené aussi à faire du maintien de l'ordre en marge d'un parcours, d'une manifestation, pour pallier à tout accident ou toute chute accidentelle.
Qu'est-ce que ça fait de travailler dans un cadre comme ça? C'est quand même un cadre particulier par rapport à un commissariat.
Alors quelque chose de tout simple, quand on est policier à la brigade fluviale, les gens nous disent bonjour, nous sourient. Alors c'est vrai que le sentiment que j'ai, c'est qu'on est beaucoup moins confronté à la violence que les policiers sur le terrain, en tout cas sur le terrain terrestre, rencontrent. Et c'est vrai qu'on a le sentiment, quand on patrouille aussi, d'être dans un cocon. Parce que le milieu fluvial est particulier. On est coupé de cette violence et c'est vraiment ce qui m'a le plus frappé moi sur mes premiers jours ici.
On précise qu'on est sur des préfabriqués là.
On est sur l'eau. Donc si un bateau passe trop vite, on tangue. Donc, vous remarquerez, c'est pour ça que dans nos bureaux, on a tous une position du bureau bien particulière. Parce que nos bureaux ont tendance à pencher vers le quai. Et en général, si on a un bureau qui est perpendiculaire au quai, à un moment, on a mal au dos.
Donc les bureaux sont parallèles au quai.
Voilà.
On y va. Allez. Sur quel type d'opération est-ce que vous êtes amené à intervenir à la brigade ?
En fait, l'activité de la brigade fluviale est assez liée aux saisons. En période d'été, on va être amené à intervenir beaucoup sur des baignades. Il faut savoir qu'à Paris, la baignade est strictement interdite. Interdite parce qu'elle est dangereuse. Mais toutes les semaines, que ce soit sur Paris ou dans le Val-de-Marne, on a des jeunes qui se mettent à l'eau pour s'amuser, pour nager. Malheureusement, chaque année, on a des jeunes qui décèdent parce qu'ils se font piéger par les fonds, quelquefois. Ça, c'est un sujet pour nous qui est important.
On voit Paris différemment depuis la Seine.
Mais vous me direz ce que vous en pensez. Enfin, c'est un luxe de travailler sur la Seine. On voit les gens différemment, on voit la ville différemment. On travaille dans un cocon. Dans un cocon, mais avec un danger qui est toujours présent. Et il ne faut pas l'oublier.
Une semaine dans la vie de la brigade fluviale de la préfecture de police de Paris. Reportage d'Ariane Grissel avec Sandrine Malon, Juliette Gou à la réalisation. La suite demain à la découverte de la flotte de ces policiers pas comme les autres. C'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Marion.
Léger changement de programme finalement aujourd'hui. On va réécouter votre interview avec l'historienne Michel Perrault.
Une interview que nous avions diffusée au mois de mai, le jour de son anniversaire et le jour de l'anniversaire de la naissance de celui qui était son chanteur préféré. En l'occurrence, Charles Trenet. Elle adorait Charles Trenet, notamment sa chanson « Que reste-t-il de nos amours ?»
Trenet, c'est la fin de mon enfance, c'est l'adolescence, et c'est aussi la fin de la guerre, 43, 44, la libération. Trenet accompagne pour moi ces années-là. Pourquoi ? J'avais un grand cousin qui avait 5 ans de plus que moi, qui a été un petit peu mon initiateur dans le domaine de la chanson. C'était un type très branché, la musique américaine, par exemple, le jazz bien sûr, le swing. Et puis Trenet, il adorait Trenet. Et c'est lui qui m'a véritablement fait entendre toutes les chansons de Trenet, et je les adorais, toutes. Le soleil a rendez-vous avec la lune, ou bien, et voulez-vous danser marquise. J'adorais cette chanson-là. Et quantité d'eau. Trenet, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire une figure finalement très juvénile, mais pour l'adolescente que j'étais, jeune fille au fond, c'était quelqu'un qui était une belle figure de l'âge adulte. Il incarnait véritablement, oui, une espèce de libération finalement. La mélancolie qui s'attache à cette chanson s'attache du coup à celui qui m'a un peu initié à Charles Trenet et peut-être à des sentiments amoureux. Hein, ce grand cousin qui était un peu mon frère, au fond, j'avais 14-15 ans, j'en étais probablement un peu amoureuse. Hein, il était beau garçon, magnifique. Et à chaque fois que j'écoute Trenet, c'est cette image-là qui me vient, cette image d'un beau jeune homme de 20 ans, mort 20 ans plus tard, qui était un garçon qui aimait la vie. D'ailleurs, il a commencé par être dans le maquis parce qu'il voulait pas aller faire le STO. Et puis ensuite, il s'est engagé dans les forces américaines. Voilà, donc c'était vraiment quelqu'un qui collait à la vie et à la vie d'après. D'où le choix de cette chanson. Elle est un hommage à Trenet et elle est un peu un hommage à ce jeune homme disparu.
Il s'appelait comment, ce cousin ?
Il s'appelait François.
Ce soir, le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne. Et je pense aux jours lointains. Que reste-t-il de nos amours ? Que reste-t-il de ces beaux jours ? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous ? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela ? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage
si bien cachée, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Les mots tendres qu'on murmure, les caresses les plus pures, les serments au fond des bois, les fleurs qu'on retrouve dans un livre, dont le parfum vous enivre, se sont envolées. Pourquoi ?
Michel Féraud sera aussi dans la série des femmes puissantes. Michel Perrault sera dans la série des femmes puissantes avec Léa Salamé cet été. Voilà.
Et puis nous écouterons Gilbert Décaux demain, la chanson promis. À chaque enfant qui naît. Ce sera avec la comédienne Corinne Touzé.
Et promis, à demain Frédéric.
À demain.
France Inter. Le 13-14.
Allez, après la musique, le cinéma, direction La Croisette, tapis rouge, salles obscures et quelques rayons de soleil. C'est la météo cannoise de Laurent Delmas, voix du cinéma sur France Inter. Quel temps aujourd'hui à Cannes, Laurent ?
Ben d'abord, merci pour baiser voler François Truffaut. Hein. Merci beaucoup, c'était super, c'est une belle transition. Oui. Allez, un peu de pluie était de tôt. Rendez-vous ce matin sur les marches du Palais. Mais depuis, le soleil est revenu avec un bon 27 degrés, Marion. La météo du festival est plus mitigée, peut-être parce que nous sommes à mi-parcours, entre un Sean Penn et un Annie Moretti en très petite forme, hélas. Et certains films français qui ressemblent beaucoup trop à des pilotes de série. Pas d'avis de tempête, certes, mais pas de quoi non plus pavoiser. Alors on se régale, on s'est régalé découvrir à la semaine de la critique cette section parallèle réservée au premier et au second film et pilotée par des critiques de cinéma. Un second film belge, écrit et réalisé par Emmanuel Marre et Julie Lecoustre. Ben ce duo, on l'avait déjà remarqué en 2018 pour un film très intime et très politique, intitulé « D'un château l'autre ». Cette fois, ils reviennent avec une pure fiction au titre radical, définitif et réjouissant. Attention Marion, ça s'appelle « Rien à foutre ». Mon Dieu, si ce film séduit immédiatement dès ses premières images, c'est d'abord grâce à son actrice principale, Adèle Exarchopoulos, oui, qui, aux côtés de Léa Seydoux, souvenez-vous, fut révélée ici même à Cannes, dans le film d'Abdelatif Kechiche, La vie d'Adèle, dont on se souvient que la Palme d'Or fut attribuée à la fois à ce film, mais aussi à ses deux interprètes féminines. C'était un fait parfaitement exceptionnel. Exarchopoulos incarne donc celle qui n'en a rien à foutre. Cassandre, hôtesse de l'air, dans une compagnie aérienne low cost, toute droit sortie, et du réel et du cinéma de Ken Loach, pour des conditions de travail qui frisent l'esclavage moderne. Oui, mais voilà, Cassandre décidément s'en fiche et passe outre avec un appétit de vivre que dément la mélancolie progressive qui envahit le film à travers notamment un soin extrême porté par les deux cinéastes aux décors qui font le quotidien de cette Cassandre. Le film prend alors son envol sans mauvais jeu de mots, illustrant à sa manière cette phrase entendue dans Van Gogh de Maurice Pialat, « La tristesse durera toujours, la tristesse durera toujours ». Ce très beau film devrait sortir en fin d'année, Marion.
Et Laurent, changement de décor, on part sur une île suédoise.
Exactement, pour son 7e film, lequel concourt pour la Palme d'Or, et il sort aujourd'hui dans les salles d'ailleurs, la très talentueuse cinéaste française Mia Hansen-Love, quel beau nom, prend tous les risques, ou presque, avec Bergman Island. Elle nous entraîne sur l'île de Faro, en Suède, sur les traces de la statue du commandeur, le cinéaste Ingmar Bergman, dans ce lieu où résidait le cinéaste et qui en est devenu un véritable mausolée avec parcours touristique d'un côté et lieu de tenue secret de l'autre. Là évoluent des personnages de fiction, eux-mêmes scénaristes et créateurs d'autres personnages, d'autres fictions. L'effet de miroir est évidemment garanti. Le film dans le film marche à merveille. La lanterne magique du cinéma cher à Bergman convoque efficacement une puis des histoires d'amour. Mia Hansen-Love parvient à faire vibrer des notes intimes sans jamais se laisser entraîner dans un hommage qui serait absolument vain. Bergman n'est plus, mais les héritiers se portent très bien. Merci.
Et chaque jour, Laurent, dans votre chronique, quelques notes de musique de cinéma. Aujourd'hui, on est résolument années 80. Voyage, voyage.
Absolument. On fera le bilan samedi prochain à la clôture. Mais cette édition 2021 aura vu une incroyable floraison de reprises de chansons dans tous les films presque. Et parfois même avec des doublons. Oui, on a ainsi entendu la chanson de Desireless, Voyage, voyage, votre titre préféré, Marion, à plusieurs reprises dans le film finlandais en compétition, compartiment numéro 6, et on a eu la surprise de le retrouver hier au générique de fin du film d'Emmanuel Berco, de son vivant, mais cette fois dans une version très étrange et que je trouve très belle, signée par le groupe Soap and Skin, et c'est avec elle qu'on se quitte.
au-dessus des vieux volcans. Glisse tes ailes sur le tapis du vent. Voyage, voyage.
Le voyage dans le 7e art et à Cannes continue sur Inter, notamment demain avec vous. Merci Laurent Delmas. Dans quelques instants, le voyage sera culinaire. À vos fourneaux, à l'Irébéi, vous resserre les meilleurs grands biens vous fassent de l'année aujourd'hui. Il sera question de cuisiner et manger en pleine conscience.